Allez, je vous propose de commencer les petites formalités de début pour que ça fera arriver les retardataires. Je vais demander à Bruno Ruffia s'il est d'accord pour être le secrétaire de la séance. Bruno, il est d'accord. Et je vais demander également à nos services de procéder à l'appel.
Monsieur Charles Daillot, Monsieur Hervé Bayard, Monsieur Bertrand Tortigue, Madame Marie-Christine Bourdieu, Madame Chantal Davidson, Monsieur Farid Eba, Madame Eliane Dartéron, Madame Catherine Piquet, Monsieur Jean-Paul Gantier, absent, donne pouvoir à Monsieur Gilles Chauvin, Madame Catherine Dupouille, Monsieur Gilles Chauvin, Madame Geneviève Dariussec, Madame Odette Di Lorenzo, Madame Anne-Marie Pita Dublan, Monsieur Arsène Buchy, Madame Claude Taillé, Monsieur Jean-Marie Badby, Monsieur Michel Meige, Madame Chantal Couturier, Madame Muriel Croze, Madame Chantal Planchenot, absente, donne pouvoir à Madame Odette Di Lorenzo. Monsieur Guy Parella, absent, donne pouvoir à Madame Marina Bancon. Madame Janine Lamaison. Monsieur Bruno Ruffia. Madame Pascal Horry arrivera en retard. Madame Stéphanie Chédad. Monsieur Philippe Hérault. Madame Marina Bancon. Monsieur Antoine Vigneault-Tuquet. Monsieur Nicolas Tachon. Monsieur Jean-François Lagouët. Monsieur Renaud Laïtette. Monsieur Didier Simon. Madame Elisabeth Soulignac. Monsieur Renaud Lagrave. Donne pouvoir à Monsieur Bachet. Monsieur Alain Bachet. Monsieur Jean-Michel Carrère. Monsieur Michael Olnet. Madame Céline Piau, absente.
Je vous remercie. Pour continuer dans les remerciements, c'est vous remercier aussi d'avoir adapté vos emplois du temps pour un conseil municipal qui n'était pas du moins planifié, et pour cause, puisque une des délibérations majeures, et qui sera la dernière d'ailleurs, la 17, et qui justifie ce conseil municipal exceptionnel, est le projet d'acquisition et l'acquisition auprès de la société Darieux Forestier et compagnie de l'ensemble immobilier que vous connaissez bien. Nouvelle galerie et dépôt Casaillas annexe. Mais avant cela, nous avons profité, en tout cas, et nos services ont justement profité de ce conseil municipal pour y caser, entre guillemets, quelques délibérations qui nous permettent aussi de fluidifier leur fonctionnement, puisqu'il y a certaines choses qui étaient en suspens. Ça évite d'attendre le prochain qui a lieu en juin. Et je vous propose, sans plus tarder, de rentrer dans le vif du sujet avec le procès-verbal de la séance du 9 avril, qui est soumis au vote. Mais avant cela, si vous avez des remarques ou des points qui n'ont pas été retranscrits conformément à ce qui s'est produit, je vous écoute sur le procès-verbal. Pas de remarques particulières. Donc je vous le propose au vote sur le procès-verbal. Donc qui est contre, qui s'abstient? Je vous remercie, c'est voté à l'unanimité. Des décisions également sur la chemise numéro 2, et pour information cette fois, vous informer d'un compte-rendu des décisions que j'étais amené à prendre dans le cadre de mes délégations entre le 5 février et le 2 mai. Donc vous avez un certain nombre de décisions. Là, c'est pour information. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques, Monsieur Bachet?
J'ai deux questions, Monsieur le maire. Une concernant le montant pour la signalétique, 200 000 euros, c'est quand même relativement important, si j'ai bien lu. Cool. Et la deuxième, je suppose que vous faites des demandes de subvention avant prise de décision, puisque vous nous demandez, vous nous informez que pour l'obtention de cellules commerciales, un total de dépenses de 300 000 euros hors taxe. Si on peut avoir les explications, cela concerne. c'est la subvention, c'est la décision que vous avez prise de nous informer que vous avez pris une décision pour l'achat, pour l'acquisition de cellules commerciales à hauteur de 300 000 euros. Non, mais, vous êtes d'accord ? C'est le numéro 2019-04-0088, etc. 0088. Et donc c'est quoi ?
C'est la collectivité qui fait une demande de subvention pour pouvoir nous permettre d'acheter des cellules commerciales.
C'est ce... Mais les 300 000 euros, ça correspond à quoi ? On
c'est
peut
pas,
demander 400 000.
Oui, mais ce n'est pas fléché. C'est pas fléché.
Non.
Donc on pourrait demander 400 000.
Mais non, parce que budgétairement, on a inscrit 300 000.
Ah, non, d'accord. Budget, mais non, mais ça mériterait d'avoir d'autres explications. C'est bien que ce soit fléché, ce genre de truc, quand même, à mon avis.
Alors, concernant...
On peut faire toutes les spéculations qui soient. Surtout qu'après, dans le dossier que vous nous proposez de valider l'achat de la cellule commerciale, c'est que 5 000 euros de dépenses que nous avons.
Enfin, c'est que c'est global.
Ouais, c'est... On raisonne en enveloppe globale.
On raisonne. Mais oui. Hein?
Donc ça veut dire que dans les délibérations que nous aurions dû avoir ce soir, il devrait y avoir, puisqu'on a 185 000 sur 300 000, le delta qui reste, ça devrait être affecté à quelque chose. Aujourd'hui, on ne sait pas. Oui, mais laquelle ?
Dans deux mois, il y aura peut-être une entrée libre pour l'achat d'une cellule commerciale.
Oui, mais ça... Mais monsieur Tortigue... Non, mais d'accord, ça veut dire que... Il y a déjà des choses qui sont en cours. Ça serait bien qu'on en soit informé.
Non, c'est simplement se laisser budgétairement la possibilité de faire l'acquisition de cellules commerciales. Mais donc, en fonction d'accord. des opportunités qui se présenteront, on achètera, on fera l'acquisition
mais
de
cellules. Pourquoi ça s'arrête à 300 000 ? Ça pourrait être 285 ou 400. Ben ça permettrait d'acheter d'autres cellules commerciales.
Ben
on pourrait le faire.
Nous avons inscrit au budget 300 000 euros. Pour l'instant, nous voyons, et si nous avons des subventions, on pourra en mettre plus. Mais pour l'instant, sur fonds propres, si on peut parler comme ça, sur notre budget 2009, on a mis 300 000 euros pour 2019 pour acheter des cellules commerciales.
Et alors, je vais plus loin dans mon raisonnement. Ça veut dire que si on n'achète pas de cellules commerciales, on aura demandé des subventions pour rien. Ben oui, si on reste à 185 000.
Le montant des subventions s'adapteront.
Je ne fais pas ça pour la polémique. Ça devrait être suivi de délibération. Or, c'est pas suivi. Il n'y en a qu'une délibération, c'est 185 000 euros qu'on nous demande. Point. C'est ça. Ben oui. Et donc, ça veut dire que... Bon.
Pour le reste, on parle d'un marché à bon de commande. C'est l'enveloppe maxi de 200 000, hein, c'est ça ? Oui, c'est la même chose. C'est-à-dire que ça peut être moins, mais le maximum qu'on demande, c'est 200 000 euros. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ces décisions ? Donc là, c'était pour information. Un certain nombre de délibérations financières, et je vais laisser tout de suite la parole à Chantal Couturier. Il y a quelques DM et aussi des notions de créances éteintes. Donc je laisse la parole à Chantal Couturier.
Oui, la délibération donc concernant la décision modificative numéro 1 pour procéder aux ajustements suivants. En section de fonctionnement dépenses, donc 10 000 euros prévus pour le prix de la création urbaine. En recette, section de fonctionnement, bon, c'est les réajustements, c'est les dotations de l'État, hein, puisque nous les avons reçues, donc c'est par rapport au budget primitif. En section d'investissement en dépenses, donc 77 000 euros pour les frais d'études OPA-RU, pour des montages de dossiers, et un fonds de concours. Cette somme de 430 650 euros est prise sous la réserve des excédents eau et assainissement, puisque c'est un fonds de concours. Et une subvention de l'ANAD pour l'OPA-RU en recettes d'investissement. Voilà, monsieur le maire, ces quelques ajustements.
Est-ce que vous avez des questions sur cette DM ? On parle du budget principal. Pas de questions. Donc sur la délibération, on est sur le 3 qui est contre. Est-ce qu'il y a des procurations ? Voilà. 1, 2, 3, 4, 5 voix contre. Qui s'abstient ? Je vous remercie. Donc c'est voté à la majorité. Chantal Couturier pour les deux prochaines qui concernent des créances éteintes.
Oui, alors la première concerne le budget principal ville. Le trésorier principal nous a informé qu'il n'a pu procéder au recouvrement de certaines recettes datant des exercices précédents pour un montant de 48 540,85 €.
Oui. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération ? Pas de questions. Qui est contre ? C'est la 4. Qui s'abstient ? Merci, c'est voté à l'unanimité.
Oui, la même chose donc pour le budget donc annexe, le budget annexe du Renault PRU. Donc pour un montant, la même chose, une créance éteinte pour un montant de 6 520,82 €.
Est-ce qu'il y a des questions ? Là, on est sur le PRU, toujours pareil, créance éteinte. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci, Chantal Couturier.
Oui, et la suivante, bon, pour le budget de la régie des fêtes et animations de Mont-de-Marsan, pour un montant de 201 €. 201 €, c'est tout.
Merci.
Pour les créances éteintes.
Donc là, sur le budget régie, pas de questions. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci, voté à l'unanimité. Je vais passer la parole à Cathy Dupont. Il s'agit de... On nous demande, le nouveau trésorier nous demande de délibérer à part, il me semble, pour le CCAS, c'est ça. Cathy Dupouille.
Merci, Monsieur le maire. Il s'agit en fait, dans le cadre du budget primitif 2019, qui a été approuvé par le conseil municipal en avril 2019, qui prévoit le versement d'une subvention de fonctionnement au centre communal d'action sociale d'un montant de 1 259 475,91 €. Donc il convient d'approuver ce montant et d'autoriser bien sûr Monsieur le maire ou son représentant à intervenir à la signature de toute pièce et formalité se rapportant à l'exécution de la présente délibération.
Donc ce n'est qu'entériner ce qu'on a voté au budget la dernière fois sur le CCAS, mais le faire à part. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci, c'est voté à l'unanimité. Je vais passer la parole à Chantal Davidson pour nous parler de la subvention au Centre d'art contemporain.
Merci, Monsieur le maire. Donc, lors de sa réunion du 9 avril 2019, le Conseil municipal a décidé de l'attribution de subventions. Et dans ce tableau général, on avait tout simplement oublié l'association Centre d'art contemporain des Landes. Donc, en fait, là, on rectifie une omission. Donc, il est proposé d'accorder une subvention de 12 190 €.
Merci, Chantal. Donc, l'oubli est rectifié. S'il n'y a pas de questions, qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est voté à l'unanimité. Et Cathy Piquet, il s'agit de la participation financière aux travaux d'amélioration de l'éclairage au funérarium. Cathy.
Oui, le CIDEC programme annuellement des travaux de rénovation de son réseau. La ville de Mont-de-Marsan participe à la réalisation de ces travaux. Et il a été acté ces travaux sur le funérarium. Ils ont augmenté la puissance donc électrique. Voilà, donc nous vous demandons d'approuver cela. Voilà.
Merci, Cathy Piquet. Y a-t-il des questions ? C'est sur la quote-part donc, qui reste à la commune, qui est de 60%. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci, c'est voté à l'unanimité. Le tableau, je vais le faire, Jean-Paul Gantier étant absent. La mise à jour des emplois communaux. Il s'agit d'une information régulière dans ce type d'instance. Là, on nous parle de la création d'un emploi au 1er juin 2019 sur le budget régie des fêtes, un emploi administratif à temps complet. Voilà, et vous avez le détail, pas nominatif bien sûr, de ce tableau des effectifs permanents. Y a-t-il des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. C'était la 10. C'est voté à l'unanimité. Je vais passer la parole à Farideba, a priori, concernant le plan communal de sauvegarde. Farid.
Merci, Monsieur le maire. Je vous demande tout simplement d'approuver l'avenant à la convention d'adhésion au service PCS du CDG 40 relative au schéma départemental défibrillateur.
Merci.
Donc on aura des équipements au complexe sportif. On a la SPTT, d'Orgamide, la Marcano, Bergendès, Hippodrome, Château-Nahuc. Est-ce que vous avez des questions?
Oui, je voudrais juste rajouter qu'à partir du 1er janvier 2019, on a obligation d'équiper tous les établissements de ERP de première, deuxième et troisième catégorie.
S'il n'y a pas de questions, qui est contre? Qui s'abstient? Merci, c'est voté à l'unanimité. Chantal Davidson pour le partenariat avec les Amis du Musée.
Donc, la Société des Amis du Musée d'Espiau-Vléric a été créée en janvier 2017. Alors, il ne faut pas confondre avec le Centre d'art contemporain des Landes, qui auparavant s'appelait la Société des Amis de Charles d'Espiau. Alors, comme il y avait une certaine confusion, donc maintenant, la Société des Amis de Charles d'Espiau s'appelle officiellement le Centre d'art contemporain des Landes. Et donc là, il s'agit de la Société des Amis du Musée d'Espiau-Vléric, qui a été créée en 2017 pour contribuer au développement et au rayonnement du Musée d'Espiau-Vléric. Voilà, cette société a son siège social au Musée d'Espiau-Vléric à Mont-de-Marsan. Et donc la ville de Mont-de-Marsan souhaite accompagner cette société au travers d'une convention de partenariat. Donc je pense que vous avez tous lu la convention de partenariat qui est annexée.
Merci beaucoup Chantal. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Donc c'est la 12 qui est contre, qui s'abstient. Merci, c'est voté à l'unanimité. On a 2, 3 ou 4 sessions. 3, Hervé Bayard.
Merci, monsieur le maire. Donc, en effet, je vous propose de traiter la 13, la 14, la 15 ensemble, puisqu'il s'agit de sessions qui, au lotissement communal, dans le quartier nord, au quartier du Père Ouatt. Donc, cette première session, on a déjà procédé à 6 sessions. Donc là, cette fois-ci, on vous propose 3 sessions supplémentaires. Donc, la première à madame Marie Morlet, née Majot. Donc, qui fait l'acquisition d'un terrain d'une surface de 304 mètres carrés et qui sera vendu au prix de 27 450 euros TTC avec 4 000 euros de frais d'agence, soit 31 450 euros. La session suivante, c'est donc madame, monsieur et madame Berry, Sony, qui font l'acquisition d'une surface de 279 mètres carrés au prix de 25 110 euros. Plus 4 000 euros de frais d'agence. Et puis, la session suivante, c'est est opérée donc au profit de madame Florence Chloé Manon, qui fait l'acquisition d'une surface de 280 mètres carrés au prix de 25 200 euros, plus 4 000 euros de frais d'agence.
Merci, Hervé. Donc, sur la délibération numéro 13, le A2 UP1 Champollion, qui est contre. Qui s'abstient? Merci, c'est voté à l'unanimité. Sur la 14, B5 P1 Champollio, qui est contre? Qui s'abstient? Merci, voté à l'unanimité. Sur la 15, B6 P1 Champollio, qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Je vais laisser la parole à Bertrand Tortic sur l'acquisition d'un local.
Merci, monsieur le maire. Donc, c'est une délibération. Nous en avons parlé en début de séance. Donc, on vous propose de donner autorisation donc au conseil, donc à la collectivité, dans l'opération Cœur de Ville. Donc, nous avions mis une enveloppe de 300 000 euros pour l'acquisition dans le budget 2019 pour l'acquisition de cellules commerciales afin de pouvoir en être propriétaire et pouvoir les mettre à l'offre de futurs commerçants avec des loyers compétitifs. Et c'est donc ce que nous vous proposons, c'est donc d'acquérir pour la somme de 85 000 euros le commerce situé 24 rue Frédéric Bastia, qui appartient à la SCI Molide, qui est dont le représentant est M. Jean Benarpère, et qui fait 78 mètres carrés au sol. Voilà, monsieur le maire.
Merci. Bertrand, est-ce que vous avez des questions sur cette acquisition, monsieur Bachet?
Je voudrais simplement savoir comment est calculé le prix du mètre carré. Parce que si, comment est calculé le prix du mètre carré? Ça fait 110 euros le mètre carré. Qu'est-ce qui justifie que ça coûte 110 euros le mètre carré d'achat d'un local commercial où on va avoir à l'intérieur, certainement, puisqu'on en devient propriétaire, on va avoir à l'intérieur, si on veut le louer à quelqu'un pour qu'il y ait un magasin, des aménagements à faire. Donc ça risque de coûter un peu plus que ou il n'y a pas d'aménagement, ça sera le locataire qui fera, ou etc., etc. Donnez-nous quelques explications par rapport à ce coût.
Bien. Je comprends tout à fait votre demande. Comment ça a été évalué? D'abord, pour moins de 180 000 euros de mémoire, nous ne sommes pas obligés de passer par les domaines. Nous avons eu des discussions, donc, bien sûr, avec les propriétaires, le vendeur. Nous nous sommes renseignés auprès des différents agents immobiliers pour savoir quel était le prix donc moyen au niveau de Mont-de-Marsan. Nous nous sommes renseignés aussi au niveau de la chambre des métiers, les différentes chambres consulaires, pour savoir quelles étaient les us et coutumes de vente. Donc nous avons en accord avec le propriétaire donc déterminé ce prix-là, 110 euros le mètre carré, c'est tout à fait raisonnable, sachant que le magasin est quand même dans un bon état, hein, qu'il y a très très peu de travaux de rénovation. Il y a ce qu'on peut appeler simplement un rafraîchissement, donc il est opérationnel très très vite, et voilà comment nous avons décidé de cet accord, sachant que pour nous c'est absolument pas une opération commerciale, ce n'est absolument pas notre profession. Le but c'est de pouvoir de présenter en plus rue Frédéric Bastiat, qui est une rue un petit peu quand même symbolique dans le cœur de ville de Mont-de-Marsan, un magasin rue Frédéric Bastiat, donc proposer un loyer extrêmement intéressant, et nous avons déjà des demandes. Voilà comment on l'a décidé.
Ça veut dire que dans la location que nous allons faire, la location, à terme, couvrira le coût qu'a mis la collectivité ou pas?
Dans mon état d'esprit, non. Moi, le but, c'est de favoriser l'implantation d'un commerce attractif à Mont-de-Marsan. Et le côté financier passe au deuxième plan. Le but du jeu, c'est que nous avons un certain nombre de cellules commerciales donc vides. Il faut être attractif. Nous avons, on va pas se le cacher, nous avons pas mal de difficultés avec certains propriétaires, car ils n'ont pas de loyer attractif. Hein. C'est leur problème, c'est leur bien, on ne peut pas intervenir, hein, nous en tant que collectivité, donc on a décidé de créer un peu une forme de concurrence, et notre but n'est absolument pas de faire une opération financière, de faire de la rentabilité, c'est de pouvoir attirer des futurs commerces à Mont-de-Marsan.
Est-ce qu'il y a d'autres remarques par rapport à cette acquisition?
Comment?
Je compléterai, mais Bertrand a tout dit, sur le fait qu'on a à cœur, depuis la signature du plan Action Cœur de Ville, à mettre autour de la table et à consulter l'ensemble des acteurs de l'immobilier sur Mont-de-Marsan, que ce soit les agents immobiliers, les notaires, les gens qui sont dans ce monde-là, de façon à pouvoir aussi appuyer nos choix sur un avis d'expert et partager. Donc on essaye d'être le moins déconnecté possible par rapport aux réalités du marché, qui souvent sur des baux ou des biens commerciaux sont pas uniquement un rapport de mètres carrés, mais aussi de chalandise, de je suis en haut de la rue, en bas de la rue, j'ai un parking, pas de parking, etc. Mais on essaye de ne pas décider ça solo et de quand même se faire un petit peu appuyer par, à plusieurs reprises, on a eu ici même dans cette salle, un atelier avec les notaires, un atelier avec les agents immobiliers, les professionnels de la banque de l'immobilier, pour avoir justement et sentir un peu le marché, voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, qui est contre, on est sur la délibération 17, qui 16. Ouais, je suis tellement pressé de passer à la 17. La 16, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Donc la dernière, c'est la délibération 17. C'est essentiellement sur cette délibération c'est surtout cette délibération qui a généré ce conseil un peu exceptionnel, parce que pour ce montant-là, il va de soi que je ne peux pas signer un compromis ou un sous-sein sans avoir délibéré et votre accord collectif là-dessus. Donc il s'agit de la délibération 17, qui est l'acquisition auprès de la société Dario Foresté et compagnie de l'ensemble immobilier cadastré AB301, AB302, 303 et 309. Je pense que 301, 302, 303, ça doit être gagné. Ce que l'on appelle les nouvelles galeries, qui sont sur le plan que vous avez, composé d'un grand bâtiment bien connu, le 301, du 302, qui est la maison de maître, on va dire, ou le siège 302, et du 303, qui est une maison contre la petite Venelle Casayas, qui est une maison qui était dite la maison du cocher.
Donc ce sont ces trois parcelles, ainsi que la parcelle ensuite qui est la parcelle 309, qui est la parcelle qui correspond à ce que l'on va appeler le dépôt Casayas, mais qui est en fait un dépôt qui est rue Henri Villeneuve, contre notre régie des eaux, en face de la poste, que tout le monde situe. Donc en 2011, la ville de Mont-de-Marsan a engagé une procédure visant à déclarer d'utilité publique le projet d'acquisition et de restructuration de l'ensemble immobilier cadastré, tel que je vous l'ai dit, constituant l'emprise du bâtiment dit des nouvelles galeries, magasins et maisons attenantes, appartenant à la société Darieux Forestier et Compagnie. Cette procédure n'a pu être menée à son terme en raison du déséquilibre économique et financier de l'opération, lié notamment aux différentes estimations des biens entre 1 651 000 euros et 5 313 900 euros. Le préfet des Landes a d'ailleurs, par arrêté du 17 mai 2016, abrogé son arrêté du 8 octobre 2012, déclarant l'opération d'utilité publique. Dans ce contexte, des contacts ont néanmoins pu être maintenus, puis se sont intensifiés et accélérés, et depuis la fin d'année 2017, entre la ville et la propriétaire, site emblématique au cœur de l'hypercentre-ville, Mont-de-Marsan, et enjeu de son renouveau, le bâtiment des nouvelles galeries, partie prenante du dispositif Action Cœur de Ville, pour lequel la ville de Mont-de-Marsan a été retenue, a récemment été primé d'ailleurs dans le cadre d'un appel à projet qui s'appelle « Réinventons nos cœurs de ville », dont l'objectif est de rénover un site emblématique des centres-villes tout en encourageant les projets urbains innovants. À la suite du décès de la propriétaire, une discussion s'est engagée et accélérée au début de cette année avec le mandataire social représentant de la société. La ville et la société Darieux Forestier Compagnie se sont accordés sur les modalités d'acquisition de gré à gré des parcelles que je vous ai décrites. Le montant de la transaction s'élèverait, si vous me donnez l'autorisation de signer ce sous-saint, à 1 270 000 euros, hors frais de notaire, qui se décompose en 1 090 000 euros pour le bloc et le bâtiment Nouvelle Galerie avec les trois bâtiments que je vous ai donnés, et 180 000 euros pour le dépôt que nous appelons le dépôt Casayas, la parcelle 309. Dans un avis rendu du 3 mai 2019, tout ça a été mené tambour battant, France Domaine, et vous devez avoir en annexe son estimation qui est supérieure puisqu'elle est de 1 340 000 euros. Donc on achèterait au-dessous de l'estimation des domaines. Donc il vous est demandé, vous avez en annexe le plan, vous avez en annexe l'estimation des domaines et vous avez l'accord de la société, de son gérant et par la même du liquidateur, qui est la même personne, sur les prix tels qu'il nous est demandé de délibérer aujourd'hui. Donc, il vous est proposé dans cette délibération de m'autoriser tout simplement à intervenir à la signature des actes authentiques, compromis aujourd'hui, actes par la suite, pour que la collectivité puisse acquérir ce bien qui est fermé depuis 2008. Voilà, est-ce que vous avez des questions ? Prenons la tête.
Oui. Monsieur le maire, votre communication dans ce dossier est particulièrement bien orchestrée. Mais il ne faudrait pas quand même oublier qu'au départ, ce dossier, vous indiquez que la procédure n'a pu être menée jusqu'à son terme. C'est manifestement un fiasco judiciaire, puisque dès 2014, début 2014, la ville était avisée que la procédure était mal dirigée, puisqu'elle était dirigée contre une personne morale qui n'était pas la bonne. Et malgré tout, la ville a poursuivi à maintenir cette démarche au lieu de rectifier immédiatement le tir. Et ensuite, il y a eu, au mois d'août 2014, un transport sur les lieux, comme il est habituel en matière d'expropriation, sauf que le juge n'a pas du tout statué sur la demande d'expertise qui était formulée ou sur le montant des indemnités, mais a déclaré la procédure irrecevable, car le vice dont elle était affectée a été considéré comme étant un vice de fond. Donc, tout le discours
et on s'en était déjà expliqué devant ce conseil qui a consisté à dire mais les propositions qui nous étaient formulées par l'ancienne propriétaire étaient excessives et en toute hypothèse le juge de l'expropriation aurait fini par donner un montant en coupant la poire en deux. C'était un petit peu le discours qui nous avait été tenu à l'époque. C'est quand même faire fi de la procédure d'expropriation parce que effectivement, il y a un transport sur les lieux et lorsque les parties considèrent qu'elles sont insuffisamment informées, à ce moment-là, il y a une mesure d'expertise qui est confiée à un expert donc désigné par le juge d'expropriation qui va faire à la fois une analyse technique du dossier et ensuite proposer, au regard de l'état du bâtiment, des désordres constatés, une indemnisation. Et c'est à partir de cette expertise que les parties sont entendues par le juge et le juge tranche ensuite. Dans ce dossier-là, il n'y a pas du tout eu cette phase d'expertise et donc il n'y a jamais eu la moindre discussion sur le montant des indemnités devant le juge l'expropriation. C'était la première observation. La deuxième observation, c'est de vous dire que la décision que vous nous demandez de prendre, nous en partageons évidemment l'horizon, mais elle nous paraît être prise dans le brouillard. Pourquoi elle nous paraît être prise dans le brouillard ? Parce que je me réfère tout simplement à vos documents. Et lorsque ce dossier est venu devant le conseil municipal en 2016, je lis votre propre texte de délibération. Des désordres récents, chute de pierres, d'enduits sur la voie publique ont été constatés sur cet ensemble immobilier et un contrôleur technique missionné par la ville afin de réaliser un diagnostic solidité de l'édifice a préconisé des travaux de confortement du bâtiment principal et la démolition de la partie arrière de l'ensemble. Au vu des rapports particulièrement alarmants sur l'état des immeubles, il serait souhaitable pour la ville de mettre un terme à une situation qui la conduirait à acquérir un bien dont la réhabilitation qui avait fondé l'expropriation serait insoutenable pour les finances municipales. Ça, c'était le premier document. Et d'ailleurs, il y a eu un article dans notre quotidien local au mois de janvier de 2015 où Monsieur Mathieu Hara déclarait à l'époque « Les nouvelles galeries ne valent plus rien, les démolir, c'est ce qu'il y aurait de mieux à faire. Voilà ce qu'estime notre expert immobilier, mandaté pour évaluer l'état du bâtiment et fixer le montant de l'indemnité due à l'ancienne propriétaire. » Il est également écrit un peu plus loin, c'est toujours une déclaration de Monsieur Hara, « La visite du bâtiment le 19 août dernier a révélé l'ampleur des dégradations, toute la structure a pris l'eau. Les murs porteurs sont fissurés. Quand on est dans le bâtiment, on peut presque serrer la main à quelqu'un qui se trouve dans la rue. » Mais ça, ce sont des déclarations de néophytes. Mais par contre, on a quand même le rapport d'expertise. On a deux rapports que vous aviez fait réaliser à l'époque. On a une note technique qui est établie par un expert près la cour d'appel de Bordeaux qui s'appelle Monsieur Collas ou Collas. Monsieur Collas, qui s'est rendu sur les lieux, puisqu'il avait été invité au transport sur les lieux le 19 août 2014, il décrit un bâtiment avec des fissurations dans tous les sens. Il décrit des désordres qui sont extrêmement importants. Et sur la base de ce rapport, et en complément de ce rapport, qui dit que la structure de l'immeuble est particulièrement préoccupante. Vous avez l'estimation de votre propre expert qui s'appelle Monsieur Lahaye, L-A-H-A-Y-E, qui est également expert judiciaire près de la Cour d'appel de Bordeaux, qui est donc mandaté par la commune, il n'est pas mandaté par une tierce personne, qui lui fait un rapport extrêmement détaillé, duquel il ressort dans sa conclusion, allons directement à la conclusion, que la valeur vénale retenue pour cet ensemble immobilier en l'état est de 200 000 euros. Et il conclut en disant « Nous avons parfaitement eu connaissance de l'estimation faite par le service des domaines concernant cet immeuble. Toutefois, nous précisons que cette évaluation avait été réalisée sans visite de l'immeuble. Compte tenu des constatations sur la qualité générale médiocre des constructions, de l'état particulièrement inquiétant de certaines parties du bâtiment et de l'obsolescence totale de l'ensemble des éléments d'équipement, ces valeurs seront obligatoirement revues aujourd'hui à la baisse, avec une valeur qui s'approchera vraisemblablement de celle que nous avons déterminée ci-dessus. » Et donc, par rapport à ces éléments-là, je ne suis, moi, aujourd'hui, guère rassuré, parce que nous disposons, certes, d'un avis des services du domaine, mais cet avis-là n'intègre aucune étude technique sur l'état du bâtiment. Je pensais, moi, que lors de cette séance du conseil municipal, on aurait à minima une étude technique précise, comme ça avait été fait mais actualisée. Je ne pense pas que le bâtiment se soit arrangé en 5 ans. Donc je pensais qu'on aurait une étude qui permette à notre assemblée de mesurer dans quoi on s'engage. On est d'accord pour, évidemment, que cette acquisition puisse, que les nouvelles galeries puissent être réhabilitées. Non, ne m'interrompez pas, parce que vous êtes en train, c'est de l'enfumage, vous êtes en train de présenter à une assemblée un projet, tout le monde là, il regarde le papier, vous présentez un projet sur 1 million d'euros d'acquisition, alors que vous-même, votre propre expert, indiquait que ce bâtiment, il valait à tout casser 200 000 euros. On ignore quels sont les coûts de dépollution. Il va y avoir, puisqu'on parlait d'amiante de l'époque, il doit y avoir ce bâtiment. Quelle est la structure? Quel est l'état? Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Est-ce qu'il est bon à démolir ou pas? Ce sont autant de questions qui, évidemment, auraient mérité une réponse. Et vous ne nous donnez aucun élément, sinon un petit sourire en coin. Mais comprenez que ça ne fasse pas quand même l'affaire sur un dossier aussi important. Et donc, nous ne voterons pas, pour ma part, contre, parce que considère que c'est extrêmement important de pouvoir récupérer ce bâtiment, mais la ville nous amène quand même dans une drôle d'aventure dans ce dossier, parce qu'on va acheter un bien, on ne sait pas quel sera le coût à l'arrivée pour la commune, dans quelle mesure ce bâtiment peut être réhabilité, quel est l'état réel de la structure. Tout ça, c'est des questions qui auraient mérité aujourd'hui, dans le cadre de cette Assemblée, des réponses précises, et je constate que nous n'avons strictement rien. Nous sommes dans le brouillard, nous nous abstiendrons.
Donc vous vous abstiendrez ou vous voterez contre?
Je vous ai dit, je crois avoir été clair. Nous nous abstiendrons parce que c'est un bâtiment qu'il faut absolument récupérer. De toute façon, il faut avancer, mais les conditions dans lesquelles vous nous soumettez ce vote sont quand même, je veux dire, assez médiocres, et ça aurait mérité d'autres précisions et pas présenter ça comme étant une prouesse. L'ancienne propriétaire est décédée, je règle le problème des nouvelles galeries. Soyons sérieux, vous aviez vous-même écrit que ça valait 200 000 euros, donc il faut quand même qu'on sache de quoi on parle.
Didier Simon.
Bon, moi, je vais me désolidariser de mon groupe, je vais voter contre. Je vais voter contre parce que c'est une aventure financière qui va pénaliser fortement les finances de la commune. Je ne reviens pas sur les arguments de Renaud que je partage absolument, mais je pense qu'une fois qu'on a acheté, il faudra investir pour remettre en état, et je pense que les diverses expertises font que acheter à ce prix-là, c'est une erreur stratégique. On n'était pas à 2 mois près. C'est une succession, je suis désolé, mais les plus pressés, c'est les vendeurs, c'est pas les acheteurs. On n'était pas 2 mois près. On aurait pu effectivement avoir un dossier d'expertise un peu plus soutenu en présentation de conseil municipal que l'offre qui est déjà quasiment négociée, prête à être signée, avec une lettre de la société qui gère les nouvelles galeries en disant « Écoutez, on est d'accord sur votre prix, mais attention, on vous laisse une dernière chance jusqu'au 28 juin, je crois. Enfin, il y a une date butoir. Enfin, comme si, enfin, c'est effarant, quoi. Enfin, je crois que autant on est tout à fait pour effectivement l'objectif, mais la méthode, pour moi personnellement, ne vaut pas abstention. Elle vaut un vote contre. Et je suis désolé, mais je voterai contre.
Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Alors, Alain Bachet, puis ensuite, sur le net.
Moi, je vais reprendre ce que nous a dit Renaud Laitet. On est dans une opération de com. Parce que si on voulait effectivement acquérir ce bien, qui est à mon avis extrêmement nécessaire, il faut aller beaucoup plus loin. Moi, je pense que c'est avoir une ambition sur l'ensemble de l'îlot. Quand je dis l'ensemble de l'îlot, ça ne veut pas dire que les nouvelles galeries. Il y a des mètres carrés commerciaux qui sont vides à côté. Et je pense que notre collectivité en termes de services publics, pourrait saisir l'opportunité de cette acquisition pour faire une acquisition globale de l'eau, en termes de mètres carrés qui sont vides. Je parle de l'ancien bar, je parle de l'ancien qui vendait les vinyles, les 33 tours, les voilà. Voilà, Johnny. Donc ça serait bien. Et en même temps, quand je parle d'opération com, ça veut dire que il faudrait, en ayant l'ambition de l'acquérir, ces mètres carrés, qu'on ait une ambition de projet derrière. Moi, à mon avis, c'est de ça dont il s'agit. Et il aurait été bien, comme l'a dit, comme l'ont dit mes collègues, que vous nous donniez beaucoup plus d'éléments, parce que Renaud et Didier Simon ont parlé de dépollution, du site, parce qu'il doit y avoir de l'amiante, il doit y avoir... Je pense que c'est de 1,5 million dont il va s'agir en termes de dépenses. Donc ce n'est pas un bien qui va coûter 1 278 000, c'est un bien qui va coûter en termes d'achat plus de 3 millions. Et vous nous faites cette opération-là, comme ça personne ne sera surpris, que parce qu'effectivement, vous avez bénéficié d'une délibération du conseil municipal vous autorisant à mettre les excédents du budget eau et assainissement dans le budget municipal, qui fait qu'effectivement, que je vous informe que j'ai déposé un recours sur cette délibération. J'attends la réponse du préfet. Enfin, nous attendons la réponse du préfet. Donc, c'est opération com qui ne fait qu'être réalisée. Et en termes de dépollution, en termes de... Ça aurait été bien qu'on ait les éléments. Et je suis un de ceux qui pensent qu'il faut effectivement avoir l'ambition d'en faire un site qui permette la rencontre des Montoises et des Montois, mais ça nécessiterait qu'il y ait un appel à projet. Moi, je fais cette proposition. Plutôt que d'attendre que 30 000 Montois donnent leur avis, c'est très bien qu'il y ait un appel à projet et ensuite qu'on demande aux Montois et aux Montoises de choisir entre les 2 ou 3 ou 4 projets qui auraient pu être ou qui seront retenus. Et j'ai une proposition à vous faire parce que je considère que nous devons réfléchir, y compris en termes d'agrandissement de la mairie, parce qu'il y a des problématiques d'espace dans notre mairie pour qu'on puisse utiliser des mètres carrés que nous achèterions pour agrandir les services municipaux de la mairie. Et j'ai une proposition à faire, que les services techniques qui sont situé rue de Maréchal Bosquet, puisse se rapprocher de la mairie. Et nous pourrions, en ayant une ambition politique globale en termes d'occupation des mètres carrés que nous pourrions acquérir, avec un projet global, qu'il y ait ce déménagement-là qui puisse être fait. Et donc moi, je vous fais la proposition qui est un appel à projet. Pas qu'on nous laisse chacun. Moi, j'ai plein d'idées, hein. Comme on a vu fleurir dans le journal du matin où chacun fait sa proposition, un restaurant, une piscine, un machin, un truc, ouais, d'accord. Laissons partir les choses comme ça, on ne réglera jamais rien, on fera des mécontents partout. Donc lançons un appel à projet et choisissons entre 3 ou 4 projets et allons à la consultation des Montoises et des Montoises sur les 3 ou 4 projets que nous pourrions retenir. Mais c'est une opération de com' que vous nous faites là.
Monsieur Olnet.
Monsieur le maire, en fin d'année dernière, pour l'achat d'un bâtiment par 3 assistantes maternelles pour 60 000 euros, j'avais proposé l'euro symbolique. Vous m'aviez répondu, monsieur Olnet, j'apprécie votre générosité avec l'argent public. Je vous dis la même chose aujourd'hui, monsieur le maire, j'apprécie votre générosité avec l'argent public. Il y a 10 ans, les socialistes nous ont laissé 10% de jachère commerciale et plus de 40 millions de dettes. Aujourd'hui, vous nous laissez 20% de jachère commerciale et vous allez nous rajouter plusieurs millions de dettes. Si des investisseurs, des promoteurs, des enseignes commerciales avaient eu envie des nouvelles galeries, ils avaient 10 ans pour se faire connaître. Ce n'est pas le cas. Combien va coûter la dépollution du site ? Alors, je suis d'accord avec mes amis de l'opposition. On n'a aucun chiffre. Aucun chiffre. Les derniers diagnostics techniques datent de quelle année ? On n'a aucun chiffre, on n'a aucune date. On ne sait pas s'il est amianté, s'il est termité, s'il est plombé, s'il va encore tenir debout quelques années. Monsieur le maire, vous faites, à mon sens, du macronisme. Hein, c'est prendre de l'argent du peuple, hein, de nous, des administrés, pour le donner aux riches. 1 300 000 aux héritiers d'une société basée à Boulogne-Billancourt. Moi, c'est très bien. Ils ont payé du foncier pendant 10 ans. Un bâtiment qui n'était pas occupé. Ça les a gênés ? Je pense pas, non. Ils les ont payés, le foncier. On n'a aucun chiffre non plus. Pour information, la SCI, qui était propriétaire de l'ancienne clinique des Landes, n'a pas attendu 10 ans pour raser le bâtiment. Là, aujourd'hui, vous voulez acquérir une ruine. C'est vraiment une ruine. On ne sait pas du tout l'état du bâtiment. Non. Pour votre information aussi, ce bâtiment ne ressemble à rien à de l'haussmannien. Donc, je voterai contre. Merci.
Très bien. Alors je vais vous dire, je suis quand même surpris, même si je suis de moins en moins naïf, je suis surpris de ce que j'entends. Alors je peux entendre certaines choses sur la forme, mais sur le fond, je suis surpris parce qu'en fait, cette opération-là, donc on est sur un bâtiment qui est fermé depuis 2008, il y a eu une procédure, vous l'avez citée, avec des rebondissements, mais qui est une procédure dans laquelle nous n'avons pas voulu engager à l'époque et aller plus loin parce qu'il y avait l'éventualité de la fixation d'un prix beaucoup plus important que ça. Je rappelle les montants. Donc on a eu des estimations, on a eu des prétentions aussi du propriétaire qui pouvaient nous amener jusqu'à peut-être verser des sommes bien plus importantes que ça, 3, 4 fois, 5 fois plus importantes que celle-là. Première chose. Je suis surpris aussi d'entendre ces éléments parce que on a une estimation aujourd'hui des domaines qui n'est pas bien supérieure, mais qui est un peu supérieure au prix qu'on en donne. Je suis surpris aussi parce qu'on n'avait jamais parlé de ce montant-là et je pense que certains d'entre vous, il y a quelques années, auraient sabré le champagne sur un montant comme celui-là. Tout d'un coup, en effet, ça devient un sujet. Je suis surpris aussi que vous ne soyez pas dans la perspective d'acter tous ensemble et collectivement que dans l'intérêt quand même des Montois, c'est un bâtiment emblématique, hein, c'est le cœur battant du centre-ville, ça va pas régler tous les problèmes, les nouvelles galeries. Hein. Enfin, que c'est un bâtiment, il y a... Voilà, c'est pas uniquement la rénovation d'un bâtiment, j'en parlerai en termes d'appel à projet. Je suis surpris qu'on n'acte pas ici que oui, la collectivité et nos partenaires dans le cadre de l'action cœur de ville vont devoir faire un effort et mettre un peu pour pouvoir relancer, pour amorcer la pompe. En effet, si depuis 10 ans, il n'y a pas eu d'investisseurs sur un bâtiment comme celui-là, c'est parce que si la collectivité ne joue pas son rôle, dans une mesure la plus raisonnable possible, et comptez sur moi pour que ce soit le plus raisonnable possible, on peut en prendre pour 10 ans ou pour 20 ans. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez qu'on en reprenne pour 10 ans ou 20 ans ? Moi, j'ai pas envie qu'on en reprenne pour 10 ans ou 20 ans. Donc, au regard de ce que... Et alors, autre chose aussi... Vous avez vraiment... Enfin, on a l'impression, en vous écoutant, que vous vous prenez pour des lapins de 6 semaines. Quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même eu un certain nombre de choses qui ont été entreprises. Il y a des travaux qui ont été faits d'études, etc. J'ai 3 cabinets qui, depuis 1 an, parce que j'ai pu renouer des liens importants avec la propriétaire, sans en faire une opération de com', excusez-moi, les nouvelles grilles, j'y suis rentré 7 ou 8 fois, je l'ai dit à personne, et j'y suis rentré avec l'accord de la propriétaire, paix à son âme, qui, en renouant avec un lien de confiance, m'a permis, avec son accord, de pouvoir faire entrer des cabinets sur des études bâtimentaires, des cabinets sur la commercialité, qu'est-ce qu'on fait en bas, en haut, des éléments. Mais tout simplement, je suis même pas propriétaire, on n'est même pas propriétaire ça, je n'ai pas encore les études là-dessus. C'est des pistes, c'est pour gagner du temps. Mais à ce prix-là, il y a quelques années, vous auriez sauté de joie sur un montant comme ça. Sauf que c'est le timing qui vous déplaît. Attendez, je vous ai pas interrompu. Après, oui, il y a peut-être de l'amiante, certainement, il y a toujours de l'amiante, il y a des cuves, il y a des choses à dépolluer, voilà. Encore il n'y a pas longtemps, nous étions dedans, enfin, il y a même, je crois que c'était même aujourd'hui ou hier, avec l'architecte des bâtiments de France, etc. Tout ça, on avance tous nos pions le plus vite possible. C'est depuis 2008 que ce bâtiment est fermé. Donc je ne peux pas entendre, dans l'intérêt des Montois, moi je trouve que c'est un bâtiment, et au-delà de, il n'y a pas d'opération de com, c'est bien entendu pas un sondage sur Internet qui va décider de ce qu'on va faire de ce bâtiment. Simplement, il me semble que ce bâtiment, où il y a quand même un lien filial avec les Montois, on a entendu ce qui s'est dit, ça mérite aussi d'interroger un petit peu les gens. Un appel à projet. Vous voulez qu'il y ait un appel à projet. Ça tombe bien, il y en a un. Alors peut-être vous n'avez pas lu la presse. On a été avec Bertrand Tortigue il n'y a pas si longtemps que ça, rencontrer la ministre, et on a répondu à un appel à projet qui s'appelle Réinventons nos cœurs de ville, qui vient et qui s'adressait aux 222 villes. Donc on est dans une cinquantaine de villes retenues dans cet appel à projet. Et à l'intérieur, c'est sur un site emblématique qui sont les nouvelles galeries. Pourquoi ? Parce qu'on a anticipé avant même de délibérer, on a pu anticiper en renouant un lien avec cette dame-là, le fait d'y rentrer, de faire des maîtres, de mesurer, d'avoir quelques éléments pour avancer, essayer de mobiliser des fonds. Donc, bien évidemment, toutes les études en termes d'amiante, de est-ce qu'il faut déconstruire l'intérieur ou pas, on les a pas aujourd'hui. Mais sur ce montant-là, au regard de ce qui s'est passé dans le passé, c'est un montant qui est, en tout cas, très raisonnable par rapport à ce qu'on aurait pu avoir à payer avec une expropriation. Quant aux expressions des uns et des autres dans la presse, ou que ce soit les miennes également, par rapport à cette notion d'utilité publique, il faut comprendre aussi qu'il y a eu une période où nous avions une épée de Damoclès concernant la fixation d'un prix par un juge d'expro qui pouvait être un petit peu différent de celui-là. Donc c'est aussi préserver les intérêts de nos finances par rapport à ça. Quand vous êtes dans une phase de négociation, c'est pas tout à fait pareil. Voilà. Donc, ce que je veux dire, vous parlez d'opérations, de com, etc. Moi, les nouvelles galeries, ça fait un an que j'y bosse. J'y bosse et il n'y a pas eu de com là-dessus. Parce qu'il y a des choses, et à plusieurs reprises, vous nous avez demandé où est-ce que ça en était, etc. Il y a des choses qu'on ne peut pas livrer comme ça. Voilà. Alors, il est vrai qu'il y a eu ce virage avec la propriétaire qui n'est plus là, mais ce virage, je trouve qu'on l'a bien négocié. On a bien négocié avant parce que, justement, on a pu avancer des choses. Donc, aujourd'hui, c'est pas quelques personnes comme ça qui vont sur un sondage dire voilà ce que je veux pour les nouvelles galeries, on va le cadrer. Il y aura certainement différentes propositions. Enfin, je veux dire, on n'est pas neuneux. Évidemment qu'il peut y avoir une notion de maison de service public avec peut-être du privé, du public, etc. Toutes les options sont possibles. Qu'est-ce qu'on fait au rez-de-chaussée? Qu'est-ce qu'on fait en haut? Qu'est-ce qu'on fait au milieu? Qu'est-ce qu'on fait en haut? Est-ce qu'il y a des bureaux? Est-ce qu'il y a du logement? Est-ce qu'il y a des... Voilà. On va interroger un peu les gens là-dessus. On s'accompagne d'un cabinet qui a idée, qui est en train de travailler là-dessus. On a des travaux là-dessus et on va avancer. Mais je pense que je suis de moins en moins naïf sur les postures, mais je trouve que c'est dommage parce que vous limitez ça à une opération comme ça manuelle. Je crois que vous sous-estimez le travail qu'il y a derrière. Vous sous-estimez à quelle sauce nous aurions pu être mangés sur un dossier comme celui-là. Ça aurait été plus embêtant. Et puis oui, moi je dis que le jeu en vaut la chandelle. Le jeu en vaut la chandelle d'acheter à ce prix-là, ce bâtiment-là, qui est... Alors ça règle pas tout, hein, attention. Hein, c'est pas la fin de l'histoire. Hein, c'est-à-dire que c'est peut-être même le début. Mais enfin, on passe une étape, on passe un palier qui est important. Ça fait... Vous ne cessez, vous aviez raison, de nous challenger en disant où est-ce qu'on en est des nouvelles galeries, est-ce qu'on avance? Ben, le calendrier, c'est celui-là. C'est pas moi qui ai décidé du calendrier. Enfin, on a tout fait pour que ça aille le plus vite possible. Et aujourd'hui, ben, on a ce bâtiment. Alors, vous pouvez, je suis pas expert, moi, en amiante ou en déconstruction, etc. Mais je dis que le jeu en va la chandelle, que les planètes sont alignées. On fait tout ce qu'il faut pour aller capter aussi des subventions et des aides dans le cadre de cette action cœur de ville. On n'est pas la seule ville à avoir un bâtiment haussmannien ou pas. Mais un bâtiment de cette ampleur-là, où si on le laisse au privé, il n'y a pas un investisseur qui va se pointer, il faut aussi impulser les choses. Donc je pense que au-delà, je suis vraiment déçu, en tout cas surpris, je pensais qu'on pouvait avoir une adhésion collective sur une opération comme celle-là. Bon, je prends acte, J'ai entendu les éléments, mais je pense que sur une opération. Alors, quant à... C'est pas la rénovation d'un bâtiment, quoi. Hein. C'est pas une approche où il y a juste un bâtiment. On rénove pas un garage avec trois copains, là. C'est une approche qui est urbanistique. On a mis un cabinet qui est en train de regarder. Parce que, malgré tout, les planètes, elles sont alignées. Elles sont alignées entre ce bâtiment, le dépôt Casaillas. Vous le savez, et vous l'avez très bien dit à la Maché, il y a aussi d'autres spots autour qui peuvent être... Ben, vous voyez, on vous a pas attendu, ces spots-là, ils sont dans la réflexion. Il y a des négociations, il y a des estimations en ce moment des domaines. Seulement, quand on est en négociation, on peut pas toujours mettre sur la place publique les choses. Je vous ai demandé de patienter un peu sur les nouvelles galeries, parce qu'on avançait sur ces sujets-là. Imaginez bien qu'on n'a pas une approche qui est que les nouvelles galeries. Imaginez bien. Imaginez bien qu'il y a des locaux autour. Imaginez bien qu'on a rencontré les 17 personnes qui trustent les 4 rues, là, parce que c'est des familles qui sont propriétaires. Il y a des biens qui sont à vendre. Alors, on va pas jouer au Monopoly. On essaye de faire ça de façon très, très mesurée. Ça aurait pu être beaucoup plus cher que ça. Il y a eu des prises de parole dans le passé qu'on assume complètement et qui sont aussi liées à une phase de négociation où on pouvait aussi se voir imposer un prix bien plus important que celui-là. Voilà. Et après, là où je vous suis pas non plus... Vous êtes des fois pour la démocratie participative ou citoyenne, et d'autres fois non. Il est évident qu'on ne va pas ne s'appuyer que sur les avis de telle ou telle personne. Mais je pense que sur un spot comme celui-là et un enjeu comme celui-là, c'est important quand même que les Montois s'expriment. Ce bâtiment, il appartient aux Montois. Hein, c'est pas de la communication. C'est simplement que on va s'appuyer... les études, les projets qu'on a, les démarches aussi, parce que j'ai pas attendu là qu'on soit là aujourd'hui pour, à chaque fois que j'ai un rendez-vous à Paris, essayer de faire le VRP avec les éléments que j'ai pour essayer de convaincre aussi peut-être des locomotives pour venir. Ça tombe pas du ciel, monsieur Baché. Monsieur Olnet, ça tombe pas du ciel. Oui. Pourquoi depuis 2008 un investisseur privé vient pas ici? C'est parce que, en effet, il y a des travaux, il y a des choses, et si la collectivité est pas derrière, avec des leviers qui seront pas que l'argent de la collectivité et de l'excédent de la Régie des Eaux, on va en chercher ailleurs. Ben, ça peut durer 10 ans ou 20 ans de plus. Et je pense que c'est pas dans l'intérêt des Montois. Donc, rassurez-vous, cette approche que nous avons, elle n'est pas uniquement sur un bâtiment. Elle est globale, elle est même urbanistique. On a des choses qui vont bouger, là, dans ce coin-là. Donc oui, cette approche, elle est globale. Alors après, voilà, je ne voulais pas prendre le risque aujourd'hui de m'en remettre pour 10 ou 20 ans de plus. Mais c'est pas dans l'intérêt ponctuel. Je pense que c'est même transpolitique, tout ça. C'est-à-dire que un bâtiment comme celui-là, il fallait pas à ce prix-là le laisser passer. Et encore une fois, il y a eu une négociation. Je peux vous dire que c'était pas au départ, c'était pas gagné. Et cette négociation, je trouve qu'elle est gagnante-gagnante par rapport aux intérêts, en tout cas de la collectivité, et ce qu'on aurait pu risquer. Quant à la structure du bâtiment, bah, écoutez, il y a des choses qui sont en cours avec nos services. Voilà. Maintenant, voilà. Si vous êtes plus fort que les autres et que vous aviez trouvé quelqu'un qui nous le cédait à 200 000 euros, fallait nous le dire avant, quoi. Hein, fallait nous le dire avant. Ou pour l'euro symbolique, fallait nous le dire avant. D'accord? Non. Je ne vais pas vous raconter comment se passe une phase de négociation, monsieur Baché. Vous avez l'air complètement déconnecté des négociations. Oui, mais dans une phase de négociation, il y a aussi des prises de parole qui sont un peu différentes. D'accord? Aujourd'hui, à ce prix-là, et les domaines qui sont souvent bien au-delà, hein, à ce prix-là, les domaines, voilà, on est un peu au-dessous des domaines. Moi, je ne pense pas que ce soit une mauvaise opération.
Oui, vous, l'argument qui étaye votre thèse par rapport au prix n'est pas du tout juste, parce que vous êtes en train de dire, enfin, vous l'avez déjà dit tout à l'heure, que finalement, si on avait poursuivi dans le cadre de la procédure judiciaire, on aurait abouti à un prix exorbitant fixé par le juge d'expropriation. Mais c'est tout... Non, mais vous-même, dans le... Oui ? Vous-même, dans le cadre de la procédure, si je puis m'exprimer, dans le cadre de la procédure d'expropriation, vous aviez sollicité une mesure d'expertise. Et d'ailleurs, le commissaire du gouvernement avait également sollicité une mesure d'expertise. Et ça n'aurait été qu'au vu de cette mesure d'expertise, je le répète, je ne sais pas comment le dire, si je parle mandarin.
Il n'y a jamais eu de mesure d'expertise demandée aussi bien par le vendeur que par le juge.
Vous voulez la décision, là ?
Et le juge d'expertise, le juge d'expro, n'a jamais demandé
Ah, mais le juge de l'expropriation, bien sûr qu'il n'a pas demandé, puisque c'est pas... lui, il a été saisi. Le juge ne demande pas. Il est saisi. Et donc, vous êtes en train de me dire que la commune n'aurait pas demandé de mesure d'expertise ? J'ai la décision qui nous avait été communiquée à l'époque. Pardon ? Ouais. Le commissaire du gouvernement qui s'associe à titre liminaire à la demande d'expertise qui avait été formulée par la commune. C'est la décision qui nous avait été communiquée à l'époque. Mais puisqu'il n'a pas statué, le juge, c'est ce que j'essaye de vous expliquer depuis un bon moment, le juge n'a pas statué sur la demande d'expertise, tout simplement parce que le juge a déclaré irrecevable la procédure en ce que cette procédure était dirigée contre une personne morale qui n'était pas la bonne personne morale. Et donc le juge a considéré qu'il s'agissait là d'un vice de fond et il a mis fin à la procédure. Ce qui explique qu'il n'a pas été statué sur la demande d'expertise qui avait été formulée par la commune et par le commissaire du gouvernement également, ni sur le débat, il n'y a eu aucun débat sur les indemnités. J'ai la décision qui est là, qui est à votre disposition, vous l'aviez passée à l'époque. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a jamais eu de débat. Et aujourd'hui, l'avis du domaine, il ne comporte aucun élément technique. D'une manière assez lapidaire, il dit que c'est sous réserve des diagnostics, etc., à effectuer, mais il n'y a aucune investigation technique. Si la procédure judiciaire s'était poursuivie, il y aurait eu une mesure d'expertise par un expert judiciaire qui aurait intégré toutes les données de ce bâtiment, et il est peut-être aussi probable que nous ayons eu un montant d'estimation, parce que quand vous me parlez des 200 000 euros, c'est pas des propos rapportés dans la presse qui auraient qualifié de façon inexacte je ne sais quoi, c'est le rapport d'expertise de l'expert mandaté par la ville qui s'appelle monsieur Lahaye, Emmanuel Lahaye, expert près de la cour d'appel de Bordeaux, qui nous dit que ce bâtiment en 1994 il avait une valeur de 200 000 euros. Donc ne déformez pas les choses. Oui, 2014. Bon.
Est-ce qu'il y avait 2014. Quelqu'un qui voulait prendre la parole ? Après, vous vouliez prendre la parole ? Alors.
Bon, on va pas vous reprocher, monsieur le maire, d'avoir mis beaucoup d'énergie dans ce dossier-là. On ne va pas vous reprocher d'avoir le projet sur les nouvelles galeries, loin de là. Mais moi, je pense qu'effectivement, la manière dont on achète ces nouvelles galeries est une erreur stratégique, est une erreur économique. Et je pense qu'il faut en prendre conscience. Parce que, bon, un point de fiscalité, c'est sur l'avis du Mont-de-Marsan, c'est 150 000 euros de recettes, je crois, monsieur Bayard, ou je dis une bêtise. Ouais, c'est ça ? Bon, ça fait quasiment 10 points de fiscalité. Bon, c'est peut-être pas vous qui allez la supporter, les 10 points de fiscalité, mais enfin, bon, ça fait... Non, pas. Je vous ai pas interrompu, donc vous répondrez après. Donc, je pense que en termes d'engagement futur au niveau du budget de la ville, c'est des sommes qui sont très conséquentes. Je pense que cet achat, effectivement, est un peu précipité, et je le redis, le plus pressé, c'est pas l'acheteur, c'est le vendeur, aujourd'hui. Hein, et je pense que ça... Sa rapidité à envoyer un courrier en acceptant l'offre, et je pense qu'on a fait une négociation un peu rapide et un engagement un peu rapide avant le vote du conseil municipal. Et je pense que ça, c'est aussi une erreur stratégique qu'on a eue. Et dans toute négociation, et tout le monde a négocié des biens dans sa vie à acheter, je veux dire qu'on ne prend pas les bonnes règles de négociation. Parce qu'après, il faut voir la somme de travaux qu'il va y avoir derrière. Alors, on a beau être dans le projet revitalisation du cœur de ville, on est d'accord, on a des subventions de l'État, etc. Mais je crois qu'aujourd'hui, les gens seront très attentifs quand même au coût et qui va payer, d'accord ? Et je pense que c'est là où on n'est pas d'accord. C'est là où on est en droit d'être contre et pas forcément d'être contre le reste de ce que vous avez évoqué. On est d'accord sur le projet. Mais au jour d'aujourd'hui, la méthode, la rapidité, l'engagement financier que prend la ville est une erreur. Et je pense qu'il faut, c'est cette dimension-là. Vos arguments, on les a entendus. Vous n'avez pas franchement répondu à ça. Parce que les arguments de Mathieu Hara, directeur de cabinet de 2015, c'était que ça valait rien. Et aujourd'hui, ça vaut plus d'un million d'euros. L'estimation des domaines n'a jamais été d'une fiabilité extraordinaire. Hein. On en a parlé à la commission urbanisme avec M. Badéard sur d'autres dossiers. Je crois que c'est clair. C'est vrai que les histoires de tribunal, d'experts qui va mandater, la ville déjà, il y a quelques années, a perdu au tribunal sur une expertise judiciaire sur un bâtiment qui a été racheté dans la rue des cinémas à un prix faramineux. Ça est arrivé à même Darieux Sec, donc ça arrive aux meilleurs d'entre nous. Hein. Donc je pense qu'aujourd'hui, je crois qu'il faut rediscuter de tout ça et avoir le courage de dire qu'on n'est pas d'accord sur le tarif d'achat de ces nouvelles galeries, en étant pour le projet. Voilà. Point.
Pour compléter, monsieur le maire, d'un mot, puisque ça avait été mis en doute, la ville, dans un mémoire au mois de juin 2014, avait sollicité à la fois la fixation de la date de transport sur les lieux et, avant d'y redroit, la désignation de deux experts spécialisés, l'un dans l'évaluation immobilière, l'autre dans la construction et l'architecture, avec une mission notamment de déterminer les désordres, vétustés, non-conformités existantes, indiquer l'incidence sur la solidité, l'esthétique, etc., avec une mission complète d'expertise. Ceci, juste pour vous rappeler à la mémoire.
Ok, très bien. On ne doute pas de vos connaissances sur le bout des doigts du Vidal et des procédures juridiques. J'ai entendu ce que vous avez dit. Je voudrais simplement terminer, sortir un peu de l'aspect juridique et dire que nous, on est plutôt contents. On est très contents. Non pas que l'histoire se termine, parce qu'on ne va pas fanfaronner, c'est juste un morceau de l'histoire, un palier qui est passé, l'histoire elle s'écrit après, et qu'on est très content, très conscient aussi que c'est depuis 2008 qu'on attendait cela, même si c'est pas une fin en soi, c'est une étape importante, cruciale, et cette étape elle s'écrira avec les Montois, avec l'expertise qu'on a à côté. Je pense que tôt ou tard, vous constaterez que les choses avancent sur quelque chose qui n'est pas uniquement un bâtiment à rénover, mais quelque chose qui peut révolutionner, en tout cas qui peut redonner du dynamisme à l'hypercœur de ville, et avec une approche globale et urbanistique, pas uniquement technique, juridique, sur ce bâtiment qui, je le répète, et j'aimerais qu'on conclue là-dessus, a pu nous faire courir le risque de devoir le payer bien plus cher que ça. Et donc, c'est pas une fin en soi. Moi, je ne fanfaronne pas là-dessus, parce que c'est... oui, il y aura des choses difficiles à conduire, mais enfin, on est motivé. Mais en tout cas, je trouve que c'est une étape qui est cruciale, et c'est avant tout ça qui me semble être à retenir. Donc, c'est pas une victoire en soi, c'est juste un palier. Et aujourd'hui, en effet, on peut construire. J'ai entendu qu'il y avait des propositions qui étaient faites. Rassurez-vous, vos propositions, au même titre que les propositions des Montois et par rapport aussi aux études qu'on fait, ben on essaie d'en tenir compte et de confronter ces positions-là. Voilà. Je vous propose de passer au vote. Oui.
Vous dites on court le risque de... Mais on ne peut pas courir le risque de le payer moins cher, en attendant, comme nous l'a proposé Didier Simon, quelques semaines supplémentaires. Avec les arguments que nous a développés quand même M. Laitet, je pense que les choses, elles peuvent être entendues. Parce que notre réflexion, elle part parce que nous considérons que ça vaut bien moins cher que ça. C'est pas l'ambition de faire des... etc., de laisser partir. Ça vaut bien moins cher que ça. Pardon ? Par rapport à quoi, M. Tortigue ? Par rapport à quoi ? Allez plus loin, M. Tortigue. Mais par rapport à quel dossier vous faites référence ? Eh bien, donc,
nous voilà, considérons
notre proposition, c'est celle-là. C'est de dire, prenons le risque de payer moins cher.
Vous m'avez très bien compris.
Eh bien oui, prenons le risque de payer moins cher.
On a pu débattre. J'ai écouté très respectueusement vos avis. Je suis surpris, je vous le dis honnêtement. Hein, j'entends ce que dit Didier Simon, j'ai compris son raisonnement. Mais je suis un peu surpris globalement. Pas de victoire, pas d'autosatisfaction, mais quand même, on a franchi un cap et un palier que nous attendions tous, et vous aussi, vous l'avez dit, je vous en remercie, que nous attendions tous depuis 2008. Donc maintenant, la route est ouverte pour qu'on puisse
proposer, regarder, échafauder des scénarios et de façon à ce qu'on puisse maintenant donner une nouvelle vie à ce bâtiment, mais pas que, à ce qu'il y a autour également. Donc sur la délibération numéro 17, qui est contre, donc j'ai une voix contre Monsieur Olnet et Monsieur Simon, qui s'abstient, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 abstentions. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.